RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'after, un grand after de 3h ce soir, 3h de bonheur avec, il est de retour depuis hier, vous le savez, il vous avait manqué, il paraît que vous lui aviez manqué également, qu'il avait manqué à tout le monde, on lui avait manqué un peu aussi nous. Bonsoir Daniel Riolo.
C'est vrai, hier c'était...
C'est senti limite ému.
C'était le retour, mais c'est une sorte de un peu... Pas d'écrassage, parce que l'écrassage c'est après. Comment on dit quand c'est juste avant?
Préparation.
Ouais, une sorte de, tu dis de démarrage en douceur alors.
Dépuçage.
Là tu vas un petit peu loin parce que dépuçage.
C'est pas mon genre pourtant.
Après 11 ans, tu vois.
Tu le sais ça mon gars.
Non mais là j'estime que c'est ce soir, tu vois, le vrai retour. Là. Attention. Là.
Est-ce que tu penses que c'est la saison?
J'ai été bougé par notre ami Adrien Aiguin qui maintenant. Ah, il est parti en flèche. C'était que chez Moscato. Mais alors maintenant, il est partout.
Ah, mais tu savais pas.
Il est dans toutes les émissions, Adrien Aiguin. Partout, il est là.
Il a repris la semaine dernière, il nous a mis la misère déjà.
Ah, voilà, il fait collection de perles de toutes les émissions du groupe. Alors, comme dans le groupe, maintenant, on devient tellement monstrueux qu'il y a des émissions à peu près partout. Il y en a 150 sur toutes les antennes. Il a pas fini de bosser, lui.
En plus, il nous appelle les philosophes. Alors, le moins de mots, un petit
non,
peu
ça,
de plus de
4
syllabes.
Non, mais ça, c'est déjà l'année dernière.
Mais là, il abuse. Le moins de mots, c'est 4 syllabes, il est choqué.
Non, mais ça me gêne pas.
Il bosse avec le Moscato tous les jours.
Ça me gêne pas. Donc, je vois qu'il est partout, qu'il ne laisse rien passer et qu'il a pas été complètement satisfait de ma prestation d'hier soir.
Ah ouais.
C'était un retour de vacances. Normal, on n'est pas tout de suite bouillant.
Il est exigeant, il est comme toi.
Hein. Il a raison. Mais je ne le critique absolument pas. Je suis juste surpris de son omniprésence. Donc là, ce soir, je lui dis, c'est mon vrai comeback. Et là, ce soir, mon petit Aiguin, tu vas en prendre plein la gueule. Et pour pas un rond, je te préviens. Prépare-toi parce qu'il y aura pas assez de tous tes assistants parce que tu sais qu'il bosse avec une vingtaine d'assistants.
Oui, les gens croient que tout vient de
lui. Le pire, c'est lui qui bosse.
Non, c'est
des gens qui bossent sur lui gratuitement.
Il a beaucoup de talent, rendons-lui quand même. N'oublions pas surtout qu'il a fait le centre de formation de l'After.
C'est évidemment vrai.
Comme énormément de gens dans tous les médias de la place parisienne sans l'After.
J'ai remarqué qu'il ne s'est pas imposé d'ailleurs. Ouais, voilà. Ça, c'est une autre histoire. Enfin bref.
Pardon.
Salut officiellement. J'ai remarqué que c'est pas imposé. C'est-à-dire, il a été formé, il a été prêté ailleurs, quoi.
Non, c'est parce que nous, tu vois, après, on aime bien que les talents, tu vois, parce que
la Ligue,
ils ont fait la Ligue des talents, là, cette année, ouais. C'est le nouveau slogan marketing, mais nous, à l'After, ça fait 10 ans qu'on est la Ligue des talents, quoi. Ah bon?
Saluons officiellement Jonathan McCarty, bonsoir Jonathan.
Ouais, salut, hein.
L'homme qui a tenu la boutique tout l'été.
Oui. Elle était pas tout seule.
C'était un peu la cigale, alors. Non, c'est qui bossait l'été? La fourmi, la cigale? Non, c'est la fourmi qui bossait.
C'est la fourmi.
Excuse-moi, j'ai rectifié immédiatement. Adrien Aiguin. Elle ne passera pas, Adrien. Parce que je ne me suis pas trompé, c'est la fourmi qui bossait.
Le sommaire de cet after dans quelques instants.
T'as fait les deux, toi.
Vos avis tranchés, celui de Daniel et de Jonathan. Notre tour d'Europe du lundi avec les avis tranchés des drôles de dames également. Le dossier de l'after qui concerne Thierry Henry et Bordeaux. Il y aura les dernières nouvelles avec Nicolas Paul Orsi.
On a progressé pendant l'été, là. On a des
changements de police aussi, t'as vu.
Voilà, changement de police, tableaux, on a des sommaires.
C'est terminé, on déconne plus. Il y a même une nouvelle rubrique à venir dans l'after à partir de ce soir.
Ça s'appelle le tu préfères.
Vous allez voir.
T'en es fier de celle-là, je le sens.
Ah non,
mais ça, je sens que ça vous plaît beaucoup.
J'ai senti qu'il était content.
Pour avoir vu la prépa aujourd'hui avec le truc de tu préfères, je sais pas pourquoi je me suis dit que ça allait pas faire long feu, cette affaire-là.
Je sais que Gilbert a adoré l'idée.
Mais je trouve que l'idée est bonne, mais que plein de fois on va se retrouver un peu emmerdé avec la réponse.
Parce que tu n'es pas blanc ou noir.
Exactement.
Bah justement, là,
tout l'intérêt. Oui, mais tu sais bien qu'à notre époque, Jonathan, maintenant, on veut que tu sois blanc ou noir. Je sais.
Messieurs, il y a également de la Ligue 2 ce soir. 5e journée de Ligue 2, match entre Valenciennes et le Gazélec. Et devinez qui est au boulot, qui est au charbon ce soir. Jean Baumel, bien entendu, du côté du Hainaut. Il est là, le Gibo, ou pas?
Bah oui, je suis là, bien sûr. Salut, Nico. Salut, Daniel. Salut, Jonathan.
Bonsoir. Le duc du Pas-de-Calais.
Et oui, écoute, et cette saison, ça démarre bien. Tu vois, l'année dernière, j'avais la tête à l'envers. Écoute, bah Lille c'est plutôt pas mal, Lens c'est bien, Valenciennes ça peut être bien s'ils gagnent ce soir, tu vois, et Amiens c'est correct.
En même temps, il y a longtemps que t'as pas bouffé une bonne saison, tu mérites un peu. Là.
Ah oui, oui,
tu
mérites
de croquer un peu parce que
il y a eu des années où t'avais 3-4 clubs en Ligue 1 quand même.
Oui, mais ça date. Franchement, ça date pour lui là.
Ouais, 2009-2010.
Ouais, ça date. Il mérite de croquer un peu le pauvre parce qu'il a bouffé vraiment de la merde ces dernières années. Il a besoin de se régaler un peu.
Il est comment ton match là, Gibo, du coup?
Écoute, c'est un petit peu moyen, 0-0, 20 minutes de jeu, très peu d'occasions de but. Voilà. En plus, il y a quand même un coup à jouer pour les deux formations puisqu'en cas de victoire, eh bien, ils se retrouvent serait quatrième. Donc voilà. Alors il y a une chose qui est assez étonnante. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'est pas, titulaire. C'est le défenseur de, du Gazélec, Damien Perkis, puisqu'en face, le gardien de Valenciennes s'appelle
Damien Perkis.
Damien Perkis. Voilà. Bravo. Ça c'est. On le verra. On aura peut-être
qui joue en charnière à Valenciennes, Gibo.
Pardon.
Qui est en ligne en charnière?
Là, je le sens venir là.
En charnière du côté de Valenciennes, tu as Nestor et Dabo, puisque Aloé est suspendu.
Et donc, voilà, non, mais bah, je savais pas que Baptiste était suspendu. Non, non, bah, non, c'est tout, il est suspendu, je savais pas.
Bon, Gibo, s'il se passe quelque chose à Valenciennes, t'hésites pas. Voilà, 0-0 pour l'instant entre Valenciennes et Gazélec.
C'est pas pour dire que Valenciennes-Gazélec est un tout petit match, mais il y a du gros match quand même par ailleurs. Bah,
justement, bouge pas, tu permets. Ça joue depuis deux minutes entre Manchester United et Tottenham, 0-0 pour l'instant. Alors à noter, hein, information importante, vous savez, les déboires, son jeu de mots qu'a eu Hugo Lloris ces derniers jours, il a bien le brassard, il est bien titulaire, Hugo Lloris. Pogba est titulaire du côté de Manchester United également. Composition totalement new look de la part de José Mourinho. On sera tout à l'heure avec Salim Bangali qui reviendra pour nous analyser ce match. Hein. Ça joue également en Espagne entre Levante et le Celta. On est quasiment à la pause, le Celta mène 2-0. En Italie, but merveilleux de Pastore avec la Roma.
Vous l'avez pas
bien
raté
sûr,
quand même.
La talonnade extraordinaire.
Tu sais que j'ai raté le début, j'ai zappé au moment où il y a le centre.
Ah bah je zappe vite alors, parce que deux minutes de jeu, c'est son but. Hein.
Non mais quand je dis j'ai raté le début, c'est moi, le début d'un match, c'est le couloir quoi, pour moi. Début d'un match, c'est couloir. Si tu rates le couloir, t'as raté le début d'un match. Il faut regarder les tronches et tout. Au moment du centre, je me dis merde, 20h30, c'est pas 20h45 le début du match. Bim, je zappe, je vois le centre et je vois le but de Pastore à la talonnade.
Match face à l'Atalanta, Pastore a marqué le premier, la Roma est menée 2-1 face à l'Atalanta.
Est-ce que c'est le moment de demander et d'implorer Castagné
et Rigoni
et de demander avec insistance qu'on ne qualifie pas ce but de Maggère, puisque je me bats depuis 1987 contre l'expression fourre-tout une Maggère alors que ça n'est absolument pas ça.
Maggère c'est son pote donc
du tout.
Oui, on se connaît un peu mais on a vu les petits selfies et tout, c'est ton pote, c'est pas une Maggère, le but de Pastore.
Voilà. Ça, je l'ai pas eu depuis des années, mais. Voilà. Oui, mais c'est vrai. On s'en rappelle de temps en temps. Oui, enfin, tu me trompes de classe, monsieur Maggère.
Évidemment. Oui.
Mais c'est vrai que c'est un geste particulier. C'est vrai que son geste à lui n'a strictement rien à voir, notamment avec le geste de Pastore, où le ballon lui passe derrière la jambe d'appui,
Ça n'a rien à voir, mais depuis des années, à chaque fois qu'un mec fait ce qui ressemble à une talonnade, on dit c'est une Maggère. Non.
Messieurs, on rappelle quand même les résultats de la troisième journée.
Il l'a fait, c'était beau,
1.
Mais il y a des différences. C'est magnifique son but.
Ça avait débuté par la victoire de Lyon, 2-0 face à Strasbourg. Le PSG a battu Angers 3-1. Dijon s'est imposé à Nice 4-0. Victoire de Toulouse 1-0 face à Nîmes. Un partout entre Nantes et Caen. 0-0 entre Montpellier et Saint-Etienne. Amiens a battu Reims 4-1. Hier, Lille a battu Guingamp 3-0. Bordeaux a battu Monaco 2-1. Et 2-2 entre Marseille et Rennes. Et bien justement, vos avis tranchés concernent la Ligue 1. On y va avec les avis tranchés. On commence par le tien, mon cher Daniel.
Dites-le! 9 fois sur 10, tu t'emmerdes!
T'es buté!
Mais dis-le! À chaque fois que je rentre pour faire le poker à la mi-temps, on dirait que t'as la misère du monde sur la gueule tellement tu t'es fait chier! Mais dites-le!
C'était Pierre Ducrot en face, je crois.
Exactement.
Qui sera bientôt de retour d'ailleurs.
Donc on recasse les jingles de l'année passée, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire des
nouveaux. On débute, Daniel. La saison commence.
Tiens, d'ailleurs, puisque dans le jingle je parle de poker, il faut quand même préciser quelque chose, c'est que j'ai lu partout aujourd'hui la brève comme quoi Neymar était allé rendre visite à ses anciens potes à Barcelone. Non, c'est faux.
Non, c'est dans le cadre d'une opération avec un sponsor, non c'est pas ça.
Non, c'est faux. Il est allé jouer au poker.
D'accord.
Il y a un tournoi très important en ce moment, enfin une série de tournois très importantes en ce moment à Barcelone, le PT Barcelone, qui est un des plus gros rendez-vous de l'année. Et il a joué le High Roller à 2 200 euros le droit d'entrée. Et il a joué un tournoi VIP aussi avec il y avait Piqué, il devait y avoir un golfeur, Sergio Garcia aussi. Et il y avait Lo Celso a joué également ce tournoi. Et il a eu un résultat important juste ça fait combien de temps Neymar a eu un très bon résultat dans un tournoi au Brésil il me semble, je sais plus là peut-être là-dessus.
Il est bon.
Oui, il commence à très très bien jouer, enfin c'est un dingue de poker, un vrai passionné. Il joue les tournois pour aller jouer le High Roller de l'OPT.
Même quand le PSG en Ligue des Champions, les soirs de match de Ligue des Champions.
Pour aller non mais ça c'est il jouait avec ses potes à la maison. Là il aime vraiment le poker, il joue un vrai tournoi, le PT Barcelone, c'est un gros tournoi. Donc il a fait un High Roller qui est un tournoi qui réunit quand même des excellents joueurs. Il a pas fait de perf. Mais voilà, il était à Barcelone pour ça, pour jouer deux tournois.
Il en a profité pour aller voir ses potes. Voilà, c'est une des infos de la journée.
La première chose, c'était quand même d'aller jouer, parce qu'en plus, il a un sponsor, PokerStars en l'occurrence, qui est une grosse machine dans l'industrie du poker. Et il est allé principalement pour ça. Alors le PSG était off dimanche et lundi. il n'y avait pas, pas d'entraînement, donc il n'a pas.
Ouais, il a droit, hein.
Ça n'allait pas à l'encontre.
Il a lâché une petite déclin, une télé catalane concernant son avenir. J'ai un contrat avec le PSG, je reste là-bas. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré, Neymar. Alors, le PSG, justement, qui s'est imposé 3-1 contre Guingamp. Thomas Tuchel qui avait lancé une compo inédite en première période, une défense à 3. Avant de tout changer, finalement, à la pause et de sortir notamment le jeune Kerrer, qui était titulaire pour la première fois. Et toi, ton avis tranché, Daniel, justement, il concerne Tuchel, le Paris Saint-Germain version Tuchel, où on change tout, mais finalement, on change rien.
Effectivement. Alors, c'est un avis tranché, comme ça fait longtemps que j'ai pas parlé et que j'ai un petit peu de retard. Alors, je vous promets plusieurs parenthèses à l'intérieur de cet avis tranché. Je préfère vous prévenir. Donc, à un moment, si vous êtes saoulé, vous pouvez vous endormir.
Bon, on va faire 30, un tour et puis revenir. Une
trente.
Bah, regarde, il est là-bas,
le chrono. Bah, c'est pas assez. Je m'oppose tout de suite à cette pub. Mais
non,
mais il est ouf, lui.
Mais on va la reporter.
Tu peux pas dire,
Allez, une trente. Je préfère te prévenir.
Ok, voilà. Bon, très bien. Donc,
tu veux qu'on parte maintenant?
En pub?
Ouais. Comme ça, on fait un teasing de ouf. Genre là, tu sais quoi, il y a la vie de Daniel qui t'attend. Parce que je sens que tu vas être relou sinon. Si on fait ça,
Vas-y, on fait ça.
Allez, à tout de suite. Pour la vie tranchée, Daniel Riolo et avec Jonathan Macardy. Allez, à tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Accompagné de Daniel Riolo et de Jonathan Macardy. Un after de 3 heures ce soir. Les drôles de dames seront avec nous dans quelques minutes maintenant. Daniel allait commencer son avis tranché qui concerne Thomas Tuchel et ses tentatives, ses expérimentations de ce week-end et notamment cette défense à 3.
Thomas Tuchel, depuis qu'il est arrivé, vous avez remarqué quand même que tout le monde l'adore, c'est formidable, il est génial, moi aussi, non, moi j'aime bien les entraîneurs et j'aime bien les juger une fois qu'ils ont bossé et pas avant.
T'as vu les photos de lui en boîte à Paris?
Oui, quand il va. Oui. Mais je note aussi, je sais pas comment certains de nos confrères décident à l'avance quand ils vont massacrer un mec ou être indulgent avec lui. Je me souviens d'il y a 2 ans, il avait été décidé d'entrer par plusieurs médias que il faudrait massacrer Emery. On l'a fait. La Tuchel, en revanche, on a décidé qu'il faudrait être super indulgent avec lui, qu'il pourrait faire à peu près tout ce qu'il veut, que ce serait formidable, même un tas d'innovations tactiques. Quand d'autres les essayent, c'est lamentable, c'est horrible. Mais lui. Il y a aucun problème, on le laissera essayer. Je préfère cette version-là. Hein. Je ne prends pas parti dans ça. Moi, j'aime bien qu'on laisse bosser les mecs et qu'ils nous montrent un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Donc ça, c'était ma première parenthèse sur l'indulgence à l'égard de Thomas Tuchel, qui a donc commencé à travailler, qui a essayé, qui fait des essais, qui dans sa stratégie pour l'instant a décidé de bien câliner les cracks de son groupe. Tiens, il se met bien avec tout le monde, il est caresse comme il veut, peut-être même au détriment des joueurs un petit peu moins connus de l'effectif, mais en tout cas, Thiago Silva, Neymar, Cavani, Mbappé, là, il câline absolument tout le monde, il se met bien avec tous les gros joueurs, avec Rabiot, va falloir voir quand même, là, parce que comme on est encore en train de savoir, il part pas, la prolongation de contrat qui, comme d'habitude, avec lui... prend du temps à se concrétiser. Est-ce que dans le câlinage global de Tuchel, il y aura une discussion pour lui faire admettre, parce que Tuchel, comme tous les autres entraîneurs, va bientôt s'apercevoir qu'évidemment le meilleur poste de Rabiot, c'est
en numéro 6,
mais qu'évidemment comme Véro veut pas en entendre parler, il va avoir du mal. Donc
mais Rabiot l'a dit, c'était éloqué pour jouer à ce poste-là.
Oui, mais Véro veut pas. Donc que tu le veuilles ou non, Véro, elle a toujours le dernier mot. Donc je sais pas comment il va s'y prendre là-dessus. Et donc le fameux laboratoire dont on a vu un petit peu samedi dans la première période notamment, les premiers effets, chacun en pensera à peu près ce qu'il veut de ce qui s'est passé samedi dans la première période. Après on modifie, c'est un peu comme à Guingamp, on dit ouais, dans la deuxième période d'un coup ça s'est mis à beaucoup mieux jouer et samedi ça a fait pareil. Oui, enfin bon, il y a à peu près la même je pense qu'on va avoir dans les semaines qui viennent à peu près la même proportion de mi-temps pourri ou de mi-temps ennuyeux qu'on a eu avant sous Blanc, sous Ancelotti ou sous Emery, que ça va être à peu près tout le temps la même chose et que de toute façon labo ou pas labo, contre Angers, contre Guingamp, contre Nîmes et contre la Ligue 1 en général, ça sera toujours à peu près la même chose. Oui. Ça veut dire qu'on n'aura pas de conclusion à tirer et très peu d'enseignements à tirer sur ce que vaut ce PSG. On aura à peu près toujours la même rengaine, d'où ce que je disais, on change tout, mais au fait, on change pas grand-chose. Non, ce qui n'a pas changé, c'est qu'effectivement, là, on s'apprête à avoir moins que d'ici le 31, il y ait quelque chose qui change. C'est donc à ambitionner de briller en Ligue des Champions avec le même milieu de terrain. Avec donc Rabiot et Verratti en homme fort. D'ailleurs, j'attends de savoir comment il va gérer.
Mais ce qui t'étonne ou pas plus que ça d'ailleurs?
Bah un petit peu. Enfin, je sais pas en fait. Moi, je pense que tu peux changer l'entraîneur autant de fois que tu veux et faire mine de lui donner beaucoup plus de pouvoir qu'à ceux qui étaient là avant. Moi, je pense toujours que l'entraîneur. Il est là pour gérer une équipe, pour entraîner une équipe, pas pour gérer ce qui se passe à côté.
Tu veux dire le recrutement, etc.
Bah, le côté Tourelle qui va aller contrôler si l'hygiène de vie de Verratti, encore blessé et souvent blessé à cause de son hygiène de vie, s'améliore. Je suis pas sûr que ce soit le rôle d'un entraîneur.
C'est ce que beaucoup d'entraîneurs dans des grands clubs font aussi. Guardiola, ça s'est mal passé au Bayern, notamment à cause de ça. Enfin, Tourelle, on sait qu'il est très sensible en plus à ça, à la nutrition.
Il allait retirer le ketchup chez Gundogan.
Ouais, mais ça s'est pas bien passé. N'est-ce pas?
Et c'est pas forcément vrai. Il est parti de Dortmund parce qu'il y a eu l'incident, l'attentat lors du match contre Monaco, mais
ça s'est bien passé parce qu'il a eu des embrouilles avec la direction.
Mais sur ce point-là, après,
la façon qu'il avait de gérer certains joueurs, il y a énormément de joueurs que ça a gonflé. Moi, je pense que c'est pas tant au coach de faire ça, mais qu'il faut un directeur sportif et surtout un président. Et on en revient tout le temps à ce que je répète depuis des années, à une véritable ligne directrice qui permet justement à l'entraîneur de travailler sereinement et de s'occuper du laboratoire et des changements tactiques et de donner son avis sur j'ai besoin de tel joueur et tout, mais pas de savoir si je dois aller en boîte de nuit contrôler.
Tu veux dire que le modèle Wenger n'a plus raison d'être.
T'as raison et t'as raison de le répéter, parce que cet été on a cessé de dire que Nasser Al-Khelaifi était un président fantôme, tout le monde et les gens ne s'en rendent pas encore compte.
Mais non, mais au PSG on considère, d'où on change tout et on change rien, c'est que on va prendre Buffon pour l'âge qu'il a et l'expérience qu'il a, pour corriger les errances de Verratti, parce qu'ils sont italiens tous les deux. Enfin bref, ça tient pas la route une seconde.
Les erreurs de recrutement,
on prend
pas
Tourelle
de
parce qu'il a l'air un petit peu plus dur et qu'il est méga pointilleux, c'est à peu près comme si les autres l'étaient pas avant. Enfin bref, ça c'est encore une parenthèse. Donc le milieu de terrain va repartir avec les mêmes mecs. On va peut-être continuer à faire des débats sur 3-5-2. 4-3-3, quand il a arrêté le 3-5-2, qu'il est revenu avec le 4-3-3 samedi après-midi, ce qui n'était pas non plus véritablement un 4-3-3. Bref, on peut parler pendant des heures des schémas tactiques et tout. Mais est-ce que c'est ça qui a véritablement posé problème au PSG ces dernières années? Est-ce que c'est ça le schéma tactique qui fait que le PSG, en 3 semaines, fait le meilleur match, un des meilleurs matchs de son histoire et l'un des plus pourris de son histoire? Le 4-0, le 6-1, c'est le schéma tactique? Est-ce que c'est le schéma tactique qui, l'année dernière, évidemment, on a voulu nous bassiner pendant des semaines avec le fait que Lo Celso a joué 6, que machin, que ceci, que cela. C'est les schémas tactiques qu'on fait contre le Real Madrid, le PSG soit passé deux fois au travers? Non. Ce qui fait que le PSG passe au travers ces dernières années, c'est le caractère que n'a pas cette équipe.
Oui, mais le coach donc est important à ce niveau-là.
Le coach est peut-être important, mais les joueurs qui sont dans l'équipe, qui, au fil des années, ne vont pas forcément se transformer en brutasse mentale avec les années qui passent. Je ne crois pas forcément à ça. Il y a des enseignements dans la préparation mentale. Certains qui disent si tu tombes 10 fois par terre, à chaque fois que tu te relèves, tu prends un peu d'expérience, ça t'empêche de tomber après. Il y a énormément de gens qui, dans la préparation mentale, te disent tu peux tomber 10 fois si tu ne fais pas un travail mental pour faire progresser l'équipe. C'est pas parce que tu te relèves 10 fois
au
que l'expérience
même,
fera que tu vas te tu
ça
vas
peut
te,
même te
tu
décourager vas te soigner, au contraire.
Exactement.
Ouais, je t'habitue
donc,
à la lose.
Il y a plusieurs théories là-dessus. Bref, on n'a pas je vois pas. Alors, pareil que Buffon va tout arranger, mais j'en suis pas certain, moi, de ça, des pansements pour faire pro. Parce que Dani Alves était venu pour ça. Résultat, au milieu de terrain, moi je trouve que le PSG se retrouve avec la même équipe ou quasi. Il va falloir voir ce qui va devenir Lo Celso, parce qu'ils veulent le vendre, parce qu'il faut absolument qu'ils vendent. Si jamais ils réussissent pas à le vendre, vendredi redevient un joueur de l'effectif. Tourelle va quand même falloir qu'il s'en serve de ce joueur qui a été bon l'année dernière et qui a été une révélation. Je vois pas pourquoi d'un coup il est devenu tricard, le pauvre mec. Là, je comprends d'un point de vue business que s'ils veulent absolument le vendre parce qu'ils ont besoin de vendre, bon, ok, il essaye de s'en débarrasser, mais si jamais il n'y arrive pas, il redevient joueur de l'effectif.
Surtout qu'il a le profil idoine pour jouer dans un 3-5-2.
Exactement.
Dans la paire de deux.
Il va falloir qu'il le récupère, alors qu'il l'a délaissé. Bon, non, c'est le rôle d'un coach de faire ça. Bref, toujours est-il que ce que je veux dire, c'est qu'au milieu de terrain et au niveau du caractère, cette équipe, je vois pas en quoi c'est par le laboratoire qu'elle va progresser. Je ne crois pas que le 3-5-2, le 4-3-3 ou le tout ce que tu veux de schéma tactique fera que le PSG peut devenir un prétendant sérieux à la Ligue des Champions. Je pense pas que ça passera par là. Ça passera par autre chose. Le Real Madrid l'année dernière, je veux bien que Zidane soit inspiré dans ses changements. Mais je pense que si le Real est aussi fort sous Zidane jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant, c'est parce que ce que dégageait cette équipe d'un point de vue du caractère, d'un point de vue mental, était plus fort que les autres.
Oui, alors,
c'était pas tant. Parce que je sache,
Daniel,
que je sache l'un des plus grands tacticiens du moment, à mes yeux le plus grand, il s'appelle Pep Guardiola. En Ligue des Champions avec Manchester City l'année dernière, il est tombé avec toutes les innovations tactiques qui sont les siennes contre un Liverpool qui lui est rentré dans la gueule, qui mentalement a été très fort, qui tactiquement aussi
était très fort,
mais qui, bah, il faut les deux de toute façon, mais qui d'un point de vue du caractère a été très fort. La Roma, ça a été le caractère qui a fait qu'ils ont renversé le Barça pour se hisser en demi-finale. La Juve, et c'est aussi là-dessus qu'elle travaille énormément, c'est une équipe qui a la Ligue des Champions aujourd'hui, la dimension mentale, ce que tu dégages d'un point de vue de la personnalité de tes joueurs et la personnalité de l'équipe, c'est pour moi ce qui est
En premier point. Son 3-5-2 pour eux,
on peut bien se masturber autant qu'on veut là-dessus pendant des semaines et des semaines et des semaines, c'est pas par là que passe les succès du PSG.
Là où tu trompes, c'est que je pense pas que l'objectif sur cette saison pour Thomas Tuchel, ça soit de gagner la Ligue des Champions.
Ah bah alors là Jonathan, tu m'apprends quelque chose.
Non, alors moi c'est pas ce que j'allais dire. Moi je vais pas dire ça, c'est presque réducteur ce que tu dis, c'est que Tuchel il a pas mis en place son 3-5-2 en disant vous savez quoi, ce système je le mets en place parce que c'est le système qui va me faire gagner la Ligue des Champions. Il vient d'arriver, il essaye. Bon après pourquoi pas, il arrive, il essaye d'imposer sa patte, de trouver un nouveau style de jeu,
moi j'approuve à 100%, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Moi je suis pour les entraîneurs qui tentent des choses et j'aime beaucoup ce que veut tenter Tuchel, comme j'ai dit que je défendrai Tourelle tant qu'il ne m'aura pas montré, comme Emery je le défendrai beaucoup jusqu'à ce qu'il fasse des erreurs et que je les mette en avant. J'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, on a décidé dans le storytelling Tuchel, plein de médias, d'être méga
rejoint
avec lui.
Oui, mais alors,
je pense qu'on n'a pas avancé d'un pouce dans ce que veut le PSG, à savoir la conquête du titre suprême. C'est pas lui qu'il faut progresser, c'est le club qui doit progresser.
Et
le recrutement, il est pas à la hauteur.
Il y a trois points essentiels sur lesquels tu
trompes.
Le premier, c'est que je pense que par rapport, alors on va parler juste tactiquement et survoler le sujet, c'est que il est dans une année où c'est un peu compliqué. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a pas encore un effectif complet. Il a juste eu un mercato où on sait que c'est un petit peu la guéguerre avec Enrique pour avoir le choix des recrues. Je pense qu'il a pas encore l'effectif qu'il voudrait avoir. Donc je pense qu'il a tous ces facteurs-là qui font que pour l'instant, le schéma tactique qu'il veut mettre en place, il peut pas vraiment le mettre en place. Les Brésiliens n'étaient pas forcément prêts dès le début du championnat. Verratti a eu une énième rechute qui est assez agaçante, j'en conviens. Mais ça, c'est un peu à sa décharge. Et je pense qu'au final, il arrivera à imposer son schéma tactique.
Il comprend pas pourquoi il a rechuté.
Ouais, mais ça, il a raison.
Il a fait revenir.
Il a raison.
Le mec, il est là depuis un mois.
Le deuxième point, là où Tuchel nous donne beaucoup de garanties, c'est que quand il est arrivé, on avait de lui l'image d'un mec qui était très fort tactiquement, mais qui avait, comme je l'ai très bien expliqué, peut-être cette image d'un mec qui savait pas vraiment gérer un vestiaire, qui avait tendance à être super rigide.
À Dortmund au départ, c'était tout beau tout rose, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Oui, c'est
et tu parlais de
Saïd,
c'est à l'usure. Au départ, les mecs ils arrivent, ils vont pas dire les gars c'est terminé, le ketchup et les burgers.
Les nouvelles histoires, quand ça démarre.
Bien sûr.
Non mais on avait l'impression que pour Tuchel ça avait.
Tu donnes la main dans la rue.
Non, la main dans la rue ça arrive qu'à l'heure après. La main dans la rue c'est après. C'est pour de sûr. La main dans la rue c'est après.
Trois fois par jour, la cuisine, toutes les pièces.
Trois fois par jour.
Non. Allez, c'est parti.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Et après,
parle pour toi, mon pote.
Après,
Il y en a qui ont des problèmes hormonaux, c'est pas le cas.
Mais moi, je vise personne, je te vise pas.
Non, mais ce que je veux dire,
j'espère que ça n'a aucun rapport avec ce que t'as dit avant, mais.
C'est que cette calinothérapie qu'il emploie un petit peu à outrance, moi, je pense que c'est un signal qui est positif parce que je pense qu'il a appris de ses erreurs passées à Dortmund et j'ai l'impression que c'est un coach, c'est comme les joueurs, ça progresse. Et là où je pense que tu te trompes, je vais revenir sur ce point, c'est que quand tu prends un coach comme ça, qui est assez inexpérimenté, qui a, somme toute, à disputer une année ou deux années, la Ligue des Champions, si tu penses que en prenant ce coach-là, tu vas dès sa première saison dans ce club-là gagner la Ligue des Champions, c'est que t'es totalement à l'ouest.
Mais Jonathan,
moi j'en ai deux qui l'ont fait.
Moi, ce que je pense, c'est que
Tuchel, sincèrement, que les dirigeants du PSG ont recruté ce mec-là en lui disant dès la première année, c'est pas grave, on vise l'autre année.
Je pense qu'ils ont compris.
Permets-moi de douter un peu.
Eh ben, je suis naïf, mais j'espère qu'ils ont compris que la Ligue des Champions, c'était compliqué à gagner. C'est pas parce que tu balances l'oseille sur des Neymar, sur Mbappé, que ça te permet de la gagner tout de suite. Je pense qu'ils ont compris que c'était important d'avoir un entraîneur avec des idées, capable de mettre en place ses idées, capable de donner un style et une personnalité à l'équipe. Et je pense que si les dirigeants sont intelligents, ils vont se rendre compte que ça se fait pas en une saison et que ça sera peut-être dans deux ans, dans trois ans.
Juste une remarque
cette
sur ce
année,
que tu
voilà.
Pourquoi, très très vite, Daniel, après, faut qu'on file.
Quand ils se séparent de Blanc, est-ce que tu te souviens pourquoi ils prennent Emery?
Oui, parce qu'il avait gagné la 3 Ligue Europa.
Non, la Grinta. Parce que ça manquait sous Blanc. Et qu'il n'avait pas su, en gros, tenir l'effectif et transmettre la fameuse Grinta. C'était souviens-toi, on avait parlé, machin. Et Emery, l'image qu'on avait de lui en Europa League. Donc ils prennent pour ça. Ça colle pas. Les joueurs adhèrent pas tout de suite. Je refais pas toute l'histoire. On la connaît tous. Je crois pas qu'à ce moment-là ils disent on veut pas gagner la Ligue des Champions tout de suite. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. Qu'ils se trompent sur là, t'as peut-être raison, mais quand ils vont chercher Tourelle, là c'est pour autre chose. C'est en gros une sorte de fils spirituel de Guardiola. C'est pour ça que, parce que c'est venu directement du Qatar et tout, on prend
c'est Xavi,
le fils spirituel, parce que tactiquement, si, mais encore une fois, je pense qu'on est dans l'erreur au niveau des dirigeants parisiens, parce que tu peux innover autant que tu veux, mettre le labo autant que tu veux, la Ligue des Champions, elle se joue ailleurs, elle se joue dans ce que tu dégages, je répète pas ce que j'ai dit, et au milieu du terrain. Eh ben moi cette équipe, elle me semble encore dépourvue de ce qui fait la force mais des grandes équipes.
T'as pas l'espoir qu'ils aient appris
qui va en finale. Les trois mecs au milieu, ils sont meilleurs intrinsèquement que plein d'autres mecs partout dans les autres équipes. Non, mais ce qu'ils ont dégagé à ce moment-là, le caractère qu'a cette équipe.
Après s'il te plaît, Jonathan. Et après il y a pub et après il y a Salah qui nous a appelé au 32-16. Venez répondre à Daniel Riolo à son avis tranché.
Momo Salah ou
Emiliano
Salah.
En plus en tout cas
Emiliano
Salah.
C'est le grand.
Peut-être qu'ils l'ont mal écrite, tu sais, ce serait pas une première. La réponse, juste après ça.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Jonathan McCarty et vous sur le hashtag RMC Live. Vous êtes très nombreux ce soir à réagir à l'avis tranché de Daniel Riolo. On vous attend sur l'application Direct Studio au 32-16. Salah sera avec nous dans quelques instants. Avant, on va faire un petit détour du côté de Valenciennes avec Jean Baumel. Cinquième journée de Ligue 2. Il y a une affiche entre Valenciennes et le Gazélec. On en est où, Gibo?
Ouais, 0-0. On est dans le temps additionnel et Valenciennes joue à 10 puisque Dabo a été expulsé suite à un coup de coude sur le visage de Blaillac, jaune au départ. Mais vu que ça saignait fortement, Monsieur Rainville a donné le rouge et puis festival de vilains gestes notamment du côté de Valenciennes avec des tacles de Ramaré et Masson qui sont terminés par un carton jaune chacun et faut qu'ils se calment un petit peu les joueurs de Régine Alré sinon ils vont finir à 9 voire à 8 à la fin de la partie parce que dans le jeu c'est un petit peu moyen. Pourtant c'est même Valenciennes qui se procure les meilleures situations. Tout à l'heure on a vu Roudet avec ses 37 ans et bien tergiversé, il aurait pu frapper rapidement et marquer le premier but de cette partie. Pour l'instant c'est 0-0, c'est plutôt logique même si il y a une petite rébellion de Valenciennes mais pas mal de vilains gestes notamment des nordistes. 0-0 donc on est dans le temps additionnel. Il reste 1 minute 30.
Merci Gibo. 26e minute de jeu entre Manchester United et Tottenham, toujours 0-0. On vous rappelle que Loris est titulaire et capitaine du côté des Spurs et que Pogba est titulaire aussi du côté de United. Le Celta mène 2-0 face à l'Evante, on joue la 53e, c'est la pause entre la Roma et l'Atalanta. Et là, Romain est mené 3-1 maintenant, face à l'Atalanta.
Ils sont menés.
Ouais, Pastore a marqué le premier but, on le rappelle, pour les Romains.
Et ça, c'est les Rigoni doublé, mon pote.
L'Atalanta, ils avaient fait un super premier match.
On était en plein dans la vie tranchée de Daniel Riolo. Avec Thomas Tourelle, on change tout, mais on ne change rien. Salah, supporter du Paris Saint-Germain, nous a appelé au 32-16. Bonsoir, Salah.
Bonsoir, les gars. Bonsoir,
salut. Alors, Salah, première question. Comment on écrit ton prénom?
S-A-L-A-H.
Et ben voilà. C'était là. Bravo, les gars.
Donc, ça peut être un nom et ça peut être un nom de famille.
Voilà.
Hein?
Bah, ça veut dire quelque chose ou pas? Il y a une signification ou pas à ce nom?
Oui, oui, signification, ça veut dire pureté.
D'accord, ok.
Magnifique.
Voilà. Bah, c'est tout moi, ça. Ça
est-ce que t'es pur?
Je t'y crois pas un instant, c'est marrant.
Faut l'assumer quand même après. Hein.
L'humilité, vous voyez?
Ouais, aussi,
j'imagine
voilà.
Imagine, ça tombe sur Nico Villa, c'est un nom pareil, pas dans la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Comme ça.
Voilà. C'était gratos.
C'était un petit cochon, c'est tout, on le sait.
Totalement gratos.
Totalement. Salah, qu'est-ce que tu penses de la vie de Daniel du coup? D'accord ou pas d'accord?
Ouais, il a pas tort dans ce qu'il dit. Après, moi, je suis un peu aussi dans l'attente hein, de voir ce qui va se passer. Il a tenté un 3-5-2, c'est ce qu'il veut faire, c'est son projet. Il essaye de mettre ça en place. Je trouve que c'est l'idée bonne, que ça va créer une offensive un peu plus importante. Il a l'effectif. Ça n'a pas fonctionné contre Angers. On l'a vu en première mi-temps. Puis après il a préféré se reconcentrer à refaire un 4-3-3 pour essayer de reprendre la maîtrise du match. Ça a mieux fonctionné. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que il a pas paniqué. Il a changé.
Mais comment tu veux ça là? Comment tu veux paniquer quand tu joues en Ligue 1 contre Angers ou une équipe comme ça?
Mais tu peux perdre contre ces équipes là, Daniel.
Mais non, voyez.
Ça reste des équipes de Ligue 1. Mais je comprends pour toi le niveau est faible. Et je suis d'accord avec toi.
Tu peux ouvrir tous les labos que tu veux du monde entier. Si sur une mi-temps ils décident de jouer et tout, bah ils iront gagner le match, que ce soit en 3-5-2, en 10-1-0, en ce que tu veux. En fait, ça là, cette histoire du 3-5-2, tu dis l'idée est bonne. je suis d'accord avec toi, je vois pas, après tout, pourquoi pas. Mais en fait, tu sais pourquoi ça plaît un peu à tout le monde ou pourquoi tout le monde regarde ça? C'est juste parce que ça sort un petit peu de la routine. Parce que de toute façon, sinon, on sait que le PSG,
ça suit la mode.
En 4-3-3, ou de toute façon, sinon, tu sais qu'ils vont gagner, ou tu sais que machin, tu vois. Donc là, tu dis, ah bah tiens, dans le match, non seulement on sait que le PSG va gagner, ah mais en plus, il y a un petit changement, il y a un petit truc croustillant à voir. Est-ce que ça va marcher? Ça va faire un débat. Puis en plus, il nous a fait plaisir, Tourelle, il nous a même mis Marquinhos au milieu. Donc ça a fait un petit débat en plus. Et il a été bon, Marquinhos? Ah bah non, merde, il a pas été bon. À la limite, ce qui presque m'intéresserait plus, c'est, parce que j'ai pas trop entendu, c'est le nouveau positionnement de Neymar. Ça mérite peut-être un peu plus de discussion. Neymar qui serait derrière un duo Mbappé-Cavani, ça c'est peut-être un petit peu plus à observer que le 3-5-2 qui a beaucoup bougé dans ce match-là et qui au fond...
Mais c'est vrai que ça permet de plus devant que derrière. Donc c'est vrai qu'on est plus curieux de voir cette défense à 3 qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Après, je comprends ce que tu dis, c'est pas faux. C'est-à-dire, avant le coup d'envoi, on se dit Paris va gagner. Bon là, ils sont menés.
Est-ce qu'on se souvient de la légende du 3-5-2 pour le PSG? La légende du 3-5-2, c'est Manchester City. Est-ce qu'à l'époque, le PSG perd parce que Blanc met en place ce schéma que les mecs connaissaient pas, tout ça, hein, ou parce que sur un match aller-retour contre Manchester City, qui à l'époque est pas celui d'aujourd'hui, hein, il y a en vrai bon joueur, t'as surtout De Bruyne qui a gagné le match au retour tout seul et tout, mais que globalement une équipe intrinsèquement plus faible que le PSG. C'est le schéma tactique à l'époque.
De Bruyne, il y avait Agüero, Vincent Kompany qui était quand même.
Franchement, le match est à la portée. Entre le match aller où Ibra rate un face à face, où il y a Herman dans la défense, parce que je te signale qu'il fait jouer Aurier, qui devait pas jouer. Qu'est-ce qui fait perdre le PSG? C'est le schéma tactique, le 3-5-2 machin, ou le fait que justement c'était l'équipe s'est présentée sans le caractère qu'il fallait mettre la tête sous l'eau d'un adversaire qui était à sa portée.
C'est les deux.
Et les mauvais choix de faire jouer Aurier, ça a plombé mentalement l'équipe.
C'est le management global, c'est l'histoire du club.
Et le caractère. Et voilà.
Mais attends, je vais te dire, ce qui fait perdre le club à ce moment-là, c'est pas le 3-5-2, c'est pas Laurent Blanc, c'est la gestion par la présidence du club à ce moment-là. C'est ça qui fait perdre le club à ce moment-là.
Si je peux répondre pour le 3-5-2 face à Manchester City, je me souviens que ça avait fait un flop. Daniel, je pense que là, Laurent Blanc, il a eu tort. C'est que le 3-5-2, moi je pense qu'il était audacieux, mais il a mis les mauvais joueurs. Moi je pense que c'est certains joueurs qu'il n'aurait pas dû remettre. Mais je pense que l'idée était bonne. Il a
probablement ça,
chose.
Mais est-ce que dans les équipes,
Laurent Blanc, je trouve ça stupide. Mais là, il a les joueurs pour.
On a tous vu les matchs de préparation du PSG, c'était télévisé partout. Quand même, il y a eu des choses super intéressantes avec la défense à 3. Et je pense que le problème sur le match qu'on a vu ce week-end-là, c'est d'avoir mis Marquinhos au milieu de terrain, ce qui a fait que l'équipe a manqué cruellement de vitesse dans les transmissions. Le peu de fois où on a vu Verratti, Rabiot au milieu, ça marchait très bien.
Moi je veux juste réagir à ce que tu dis.
Ça marche jusqu'à quand? Jusqu'à quel adversaire en Ligue des Champions ça marche?
Ça l'a dit. Aujourd'hui, Tourelle, il a les joueurs pour jouer en 3-5-2. Dieu sait l'important, c'est pas que Dieu d'ailleurs qui tu veux, des latéraux dans ce système. C'est pas pour rien que le PSG a comme priorité de recruter un latéral gauche aujourd'hui. Enfin, tu mets qui aujourd'hui?
Donc,
même le match-là face à Guingamp, Di Maria était pas bien du tout. D'ailleurs, la raison principale pour laquelle il rebascule dans une défense à 4 en seconde période, c'est parce que Di Maria dans ce 3-5-2, il est complètement paumé dans le couloir.
Donc, la priorité, ce serait éventuellement de jouer dans ce schéma-là, mais il manque un joueur clé. On est le 27 août.
Bah oui.
Et tu l'as toujours pas.
Je vais peut-être pas passer pour un fou, mais je pense que Kurzawa peut être très bon dans ce schéma-là.
Peut-être, mais en attendant, il recherche un latéral gauche.
Jonathan, quel Kurzawa? Quel Kurzawa?
Celui qui est à Amiens.
Le Kurzawa qui ne joue plus depuis un an, qui va falloir remettre sur pied parce qu'il a une blessure récurrente au dos. Il va falloir qu'il se prépare à nouveau. Mais Jonathan,
je lui laisse encore un peu de crédit parce que c'était quand même
au bout d'un moment, tu vois, les gars, il faut être performant.
Je pense que Kurzawa, c'est juste un problème de se remettre la tête à l'endroit. Et je pense que Tourelle, c'est le bon coach pour lui remettre la tête à l'endroit. Parce que c'est un bon joueur de foot.
Est-ce que tu es pas sûr que sa tête, elle soit définitivement complètement de travers?
On verra. Mais je pense que Tourelle, on sait tout, on sait tout. Toi comme moi, on sait que Tourelle, il compte sur lui.
Si c'était le cas, il chercherait pas un arrière gauche à mort, là, comme il cherche.
Parce qu'il a pas de doublure. Si tu veux jouer,
il cherche un titulaire.
Je pense qu'il cherche comme pour le reste de l'équipe, il cherche un bis.
Il cherche un titulaire.
Mais tu sais comme moi que Tourelle a insisté pour que Kurzawa reste.
En interne, tout le monde sait que Kurzawa, c'est un peu fini.
Ça, on est d'accord.
Ils ont cherché à le bazarder, ils n'ont trouvé personne.
Tu sais que toi comme moi, on sait que Tourelle a demandé à ce que Kurzawa reste.
Mais parce qu'il y a personne pour l'instant. Il faut bien qu'il assure le coup. Mais bon.
Salah, merci de nous avoir appelé en tout cas.
Bah, de rien, je voulais juste
vas-y, Salah.
Et juste passer une petite dédicace à mon petit frère qui aime aussi l'émission. Un petit frère,
il s'appelle Mo d'ailleurs, du coup.
Continuez comme ça. Et Daniel, sois pas aussi négatif avec la Ligue 1, même si les équipes sont pas très fortes. Il y a quand même un peu de niveau.
Salah, tu déconnes. Ça fait un an et demi que je parle du frémissement. L'année dernière, j'ai relevé toutes les choses positives. Et on a l'impression que tu me parles
oui,
comme si on était 5 ans en arrière.
Quand tu fais un compliment, c'est un petit compliment. C'est pas quelque chose d'énorme. Quand tu dis quelque chose.
Tu sais quoi? Tu me regardes plus, tu me fais plus de compliments. Bah oui, mais bon.
Ah, on en revient.
Je vais même te dire, Salah. Je vais même te dire, en préparant l'émission. Je vais même te dire, Salah, en préparant l'émission, parce que oui, on prépare les conneries qu'on balance à l'antenne, mais pas toutes d'ailleurs. Daniel disait même, ce serait bien qu'on parle du niveau de jeu de la Ligue 1 en tout début de saison.
Exactement.
Ah, en train de s'élever.
Un joli mail. Et Dijon.
C'est un SMS. Mais enfin, pas non plus, tu m'envoies pas des mails.
Dijon. Non. Continue à dire la vérité.
Amiens, c'est plus sympa quand même.
J'ai pas fini par un smiley.
Le jour où tu m'enverras un mail.
Ça peut faire, on s'en fout que ce soit un mail ou un SMS.
C'est chiant écrire les mails.
Vous avez aimé Amiens quand même.
Quelle est la différence entre écrire un mail et un SMS?
Parce que faut que tu ouvres Outlook, que tu mettes l'adresse du mec et tout. C'est plus chiant d'écrire un mail qu'un SMS. On est d'accord. Faut bien écrire et tout. C'est plus chiant d'écrire un mail qu'un SMS.
Il est bizarre, lui. C'est sur le téléphone, c'est la
Arthur,
même chose.
Arthur Robert, il est d'accord.
Est-ce que vous avez aimé Amiens ce week-end?
Je te comprends pas.
Pourquoi? Attends, ils ont fait un super match pour qu'on parle du niveau de la Ligue 1.
Ah, je croyais parler à Amiens. Il y avait une fête à Amiens. On est pas allé.
Non, c'était juste pour saluer Jean-Marc de la maison du whisky, le directeur de la maison du whisky qui était.
À consommer avec modération. Tu sais qu'on va vraiment s'engueuler avec tes conneries, toi.
Mais il est auditeur de l'émission.
Oui, mais il a consommé avec modération.
Il va et tout. Et tous les, une fois, une semaine sur deux, il va à Amiens pour voir son équipe jouer.
C'est bien. Très bien.
On va passer à ton avis tranché, mon Jonathan.
Vas-y.
T'es prêt ou pas? Jingle, Jonathan McCarty.
Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pains, assume et fais-le à fond.
Voilà. Jonathan McCarty, alors qu'il va parler de l'Olympique de Marseille, alors que l'OM est en passe de signer Kevin Strootman. Toi, tu te demandes à quoi sert Zubizarreta, finalement, le directeur sportif de l'Olympique
de
Marseille.
Je m'interroge plus globalement sur la structuration de la direction sportive du club. Alors bon, je vais pas faire le pain à jouir. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je pense que l'équipe s'est renforcée là où il le fallait prioritairement, à savoir en charnière centrale et sur l'aile offensive gauche. Il y a un joueur de classe mondiale qui arrive, Kevin Strootman, mais l'enseignement principal de ce mercato pour moi, c'est que...
C'est qui a renforcé sur le côté gauche? J'ai raté un truc.
Radonjić, le Serbe.
Oui.
Donc l'enseignement principal de ce mercato, on a la confirmation que c'est bien Rudy Garcia qui a les pleins pouvoirs et que nous voilà que l'influence de Zubizarreta, et elle s'arrête aux portes de l'équipe première.
Ben, on le savait depuis l'année dernière, là, c'est quoi? C'est la vie tranchée du mois d'août de l'année dernière.
Écoute jusqu'au bout. Alors pourquoi? On regardait les trois recrues. Strootman, c'était la petite pépite de Garcia à l'AS Roma, c'est lui qui le fait venir des Pays-Bas, qui lui se fait des selfies à côté d'une machine à laver quand Strootman se blesse parce qu'il disait courage à ma machine à laver parce que quand tu lui donnes un ballon sale, il te le rend propre. Radonjić, il a eu à l'AS Roma. Ça, il était tout jeune, mais il a eu à l'AS Roma. Çalhanoğlu, c'est un petit peu, ça me fait un peu penser au Paris Saint-Germain qui à une certaine époque recrutait tous les adversaires qui avaient brillé contre lui en Coupe UEFA.
Sergueï, si tu nous regardes.
C'est vrai. Çalhanoğlu, il a joué 4 matchs contre l'OM l'année dernière. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose qui est claire, c'est que le mercato olympien, c'est totalement Rudy Garcia. Alors oui, pour l'instant, t'as cette conjoncture estivale, post-Coupe du Monde, et puis la nouvelle structure du marché, qu'ont façonné les nouvelles dates de clôture des marchés italiens et anglais, qui font que, le marché s'est décanté un petit peu sur le tard, mais je pense quand même qu'il y aurait eu la possibilité de finaliser l'effectif avant pour éviter de se retrouver le 27 août avec un effectif qui est incomplet. Mais on va pas se mentir, pour l'instant, je pense vraiment que le mercato est réussi. Je pense que ça, c'est symbolisé par le fait que t'as quand même réussi à échanger Zambo Anguissa contre Kevin Strootman en récupérant 5 millions d'euros sur la balance commerciale achat-vente. Ils m'ont plus en somme qu'un latéral gauche titulaire parce qu'à ma vie est vraiment nul en ce moment.
T'es en parenthèse,
Bien sûr. Je pense que pour que l'effectif soit complet, il manque plus qu'un latéral gauche qui puisse être titulaire parce qu'à ma vie, il a la tête dans le seau depuis des mois. Et puis éventuellement, cerise sur le gâteau, le départ de Valère Germain qui décidément n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille pour prendre un autre neuf pour concurrencer Mitroglou. Mais là où je vois le problème, en fait,
d'ici vendredi, tu vois tout ça, toi?
Non, je pense que ça serait la cerise sur le gâteau.
Ça fait beaucoup.
Ça serait la cerise sur le gâteau. Là où je vois le problème, c'est que c'est un club qui ambitionne d'être champion de project, de gagner le titre, etc. On nous a parlé des ambitions de l'Olympique de Marseille. Mais moi, je vois que le club, à tous les étages, il se structure intelligemment. Mais je vois toujours que la direction sportive, elle est inexistante. Je m'étonne que ce club qui s'ordonne à tous les niveaux ne soit pas ordonné en son cœur stratégique, à savoir au poste de la cellule de recrutement, au poste de directeur sportif. On s'attendait à une patte plus importante de Zubizarreta lorsqu'il prend les fonctions sur l'équipe première. C'est comme ça qu'Héroui nous le présente. Tout le monde, on s'attendait à avoir des petites pépites débarquées d'Espagne, de la Liga, d'avoir des idées un petit peu neuves, de voir des joueurs différents arriver. Mais pour l'instant, on reconnaît tous le travail formidable que Zubi il fait dans la structuration du club, c'est-à-dire développer le réseau olympique de Marseille en région, chose qui n'avait jamais été faite. Le travail qu'il fait à la formation, le travail qu'il fait dans le développement des jeunes. Mais pour l'instant, on voit pas du tout à quoi il sert avec son équipe première. Alors pour l'instant, Zubizarreta, il sert à quoi ? Il a juste un rôle de négociateur, de commercial. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que, en cette semaine de rentrée diplomatique, j'aimerais citer Alexis de Tocqueville, qui dans le Despotisme démocratique dit une chose assez importante. Il écrivait que la concentration des pouvoirs croît non seulement en proportion de l'égalité, mais surtout en raison de l'ignorance. Et je pense que la direction de l'Olympique de Marseille, pour l'instant, elle est en pleine ignorance des risques auxquels il s'expose. Pourquoi ? Je pense qu'on est en droit d'imaginer que quand t'es dans un club qui souhaite se structurer, tu confies pas le pouvoir le plus important, c'est-à-dire le pouvoir de structuration de l'équipe première, à un seul homme. Pourquoi ? Parce que surtout à cet homme qui occupe une fonction qui par définition va être éphémère. Il occupe la fonction d'entraîneur, il va pas être là, il entame déjà sa troisième année. Non. C'est l'entraîneur qui aura duré le plus longtemps avec Roland Courbis et Didier Deschamps. Exactement. C'est l'entraîneur qui aura passé le plus de temps à l'Olympique de Marseille avec Didier Deschamps et Roland Courbis. Mais il y a une dichotomie entre la logique de construction sportive sur le moyen terme et la logique court-termiste à laquelle répond un entraîneur. Donc je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais le risque auquel s'expose l'Olympique de Marseille, et à mon sens Jacques-Henri Hérault est dans l'ignorance de ce risque-là, c'est du risque du après moi, le déluge. Après Rudy Garcia, le déluge. Donc je suis un petit peu déçu, je dois le dire, de la manière dont l'été s'est passé pour l'OM, pas en termes de recrues, mais en termes de construction institutionnelle de ce club-là.
Ta réponse, sens, Daniel, dans quelques instants. On vous attend au 32-16 également pour réagir à l'avis tranché de Jonathan McCarty. Je vous donne juste quelques petits résultats avant cette petite respiration. C'est la mi-temps entre Valenciennes et le Gazélec, 0-0. Valenciennes qui est réduit à 10. 35e minute entre Manchester United et Tottenham, toujours 0-0. Et puis l'Atalanta qui mène toujours 3-1 face à la Roma. On joue depuis 10 minutes de jeu en seconde période. Nous, on vous attend donc au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio pour réagir à l'avis tranché de Jonathan McCarty. À tout de suite pour la suite de la
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Daniel Riolo et de Jonathan McCarty avec vous sur le hashtag RMC Live. On est avec vous au 32-16 également sur l'application Direct Studio. Sachez que la Roma vient de marquer. On est à l'heure de jeu entre la Roma et l'Atalanta. La Roma qui n'est menée plus que 3-2 face à l'Atalanta. On rappelle que Pastore a marqué le premier but du match. Très joli but d'ailleurs. Ballon d'une... Comment on le dit alors du coup, une espèce de talonnade, non ?
Ouais.
Pas vraiment, talonnade, c'est pas vraiment une talonnade aussi.
Il vient Simonet ce soir ?
Oui. Il y aura tous ces rôles de dames.
Je me demande si j'ai pas posé la question 150 fois, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment Papou Gomez reste à l'Atalanta et ne va pas dans des grands clubs.
Je peux te le dire, moi. C'est parce qu'il est très bien là-bas et qu'il est fou amoureux de ce club-là et qu'en gros, il attend la fin de son contrat pour retourner en Argentine.
Quel âge il a maintenant ?
Je pense qu'il a la trentaine. Il est pas si jeune que ça. Hein.
Ouais, je
sais. C'est le capitaine, il est dans ses petits chaussons.
C'est un super joueur.
C'est la mi-temps entre Manchester United et Tottenham. On vous rappelle que Loris et Pogba sont titulaires. 0-0 à la pause. Et c'est reparti en seconde période également entre Valenciennes et le Gazélec, Jean Baumel, Ligue 2.
Exactement, c'est reparti depuis 45 secondes, 0-0. Une première mi-temps franchement pas terrible. Surtout, on a vu des vilains gestes, mais aussi des rectifications parce qu'on a vu les images notamment. Et on pensait qu'il n'y avait pas pénalty sur Roulet. Il y avait bien pénalty. Et sur le carton rouge, c'est choc tête contre tête et non pas un coup de coude. Donc ça méritait peut-être pas le carton rouge. Donc voilà, il y a eu quelques petites erreurs. Il n'y a pas de
l'assistance vidéo en Ligue 2, on le rappelle. Tout le monde sait que Grainville, c'est l'homme qui dégaine le plus vite.
Et donc ça a pas mal changé quand même la physionomie du match parce qu'un penalty pour Valenciennes et puis un joueur expulsé. J'imagine que ça a dû bien râler auprès de l'arbitre à la mi-temps. En tout cas, pour l'instant, ça fait 0-0 et ça fait les affaires de personne parce que le vainqueur, on le rappelle quand même, pourrait se hisser à la quatrième place et voilà, se positionner pourquoi pas pour lutter pour la montée, même si on est au tout début de la saison. On n'est qu'à la cinquième journée, donc 1 minute 30 de jeu, 0-0 entre Valenciennes et le Gazélec Ajaccio.
Merci Gibo. Daniel, ton avis sur l'avis tranché également de Jonathan, déçu visiblement par le mode de fonctionnement, la direction et notamment en termes de recrutement de l'Olympique de Marseille.
Il n'a pas tort, on sait que effectivement Garcia n'a que faire de ce que lui propose Zubizarreta, que donc il bosse plutôt sur d'autres dossiers et plutôt bien, donc finalement il ne sert pas à rien Zubizarreta, puisque toi-même tu as souligné tous les dossiers qu'il menait à bien. Après c'est vrai que sur les joueurs Bon ben clairement Garcia gère tout, on le disait l'année dernière, c'est confirmé, s'il y a moyen que ça passe par ses propres agents, c'est souvent le cas. Il a pour lui le fait Garcia d'avoir fait une bonne saison l'année dernière, finale d'Europa League et en championnat, avoir, on va dire, réveillé le Vélodrome et avoir décroché une place au classement qui n'est pas déshonorante, dans le sens où les équipes qui étaient classées devant devaient l'être, on va dire, objectivement. Donc fort de cette saison, oui, il s'est trouvé renforcé dans ses positions, dans son mode de fonctionnement aussi, que tu as le droit et peut-être raison de critiquer. Maintenant, il fait pas complètement ce qu'il veut, parce que au niveau de l'oseille, l'OM est géré. Jacques Henry, je pense qu'il laissera pas, on va dire, Garcia partir dans un délire, genre filez-moi deux joueurs et envoyez valser 5 millions qu'on n'a pas.
Mais c'est un contrat de 5 ans à 5 millions par an, oui, pour un joueur de 28 ans. Voilà, moi je pense que sur la construction d'un effectif à long terme d'un club qui a pas non plus
de pouvoir limiter.
On peut trouver qu'effectivement c'est
beaucoup, il a la possibilité de dire aussi, si Zoubi se ramène avec des dossiers de joueurs, de dire bah non, moi je veux pas. Voilà, moi je veux ça, c'est pas forcément plus cher, mais
on sait très bien que ça s'est passé comme ça depuis qu'il est là. Chaque fois qu'il lui propose quelque chose, il envoie bouler ces dossiers qui sont prioritaires.
Ce que tu veux dire, c'est que les résultats légitiment ses choix finalement.
Renforce sa position de venir pour dire on n'a pas besoin d'avant-centre, alors que je suis convaincu que tu as besoin d'un avant-centre, et que l'argument consistant à dire on a marqué beaucoup de buts l'année dernière, oui très bien, mais ça veut pas dire que l'année d'après tu vas pouvoir refaire la même, que Thauvin va encore te claquer plus de 25 buts dans la saison. Oui, je pense que l'OM avait besoin d'un neuf, et qu'ils ont toujours besoin d'un neuf, et que ça aurait été aidé grandement l'OM à être encore meilleur.
Besoin.
Vu que eux, ils jouent pour être sur le podium, et qu'il y a baston, puisqu'il n'y a que deux places avec Lyon et Monaco, bah, avec un avant-centre, je pense que l'OM, d'un coup, s'affichait clairement plus fort que les deux rivaux, en tout cas sur le papier. Donc, ils l'ont pas. Il a réussi à bricoler la venue de Strootman et à convaincre les dirigeants de mettre de l'oseille dessus. C'est une super recrue.
Ouais, y a pas de souci là-dessus.
On est d'accord. Oui, effectivement, il y a la com, non, pas besoin d'un neuf. Pendant ce temps-là, je bricole Strootman, je fais venir Strootman. Ouais, il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est le patron aujourd'hui.
Mais sur le long terme, je trouve ça inquiétant.
Mais je suis dans la structure club, effectivement, l'entraîneur doit pas être patron à ce point.
Il y a une dichotomie entre la vision à court terme d'un entraîneur et la construction sur le long terme d'un club qui n'a pas des moyens non plus limités. Et puis je vais dire par contre juste sur le neuf, quand tu dis l'OM a besoin d'un neuf, moi je pense que numériquement l'OM n'a pas besoin de neuf, ils en ont deux. Le problème c'est qu'ils en ont un qui est totalement à la ramasse, qui s'appelle Valère Germain.
On parle de Moussa Dembélé du Celtic, les gars, sachez-le.
Je pense que Mitroglou,
c'est une blague ou quoi,
il mettra sa douzaine de buts cette saison.
Mais tu vas pas continuer à penser que Mitroglou est un bon avant-centre.
Je pense que Mitroglou mettra sa douzaine de buts cette saison. Je veux dire,
c'est marrant. Et pourquoi il joue pas d'après vous? Vous prenez l'œuf et la poule.
Non, mais moi je comprends pas, il a marqué en préparation.
Mais s'il joue pas, pourquoi il joue? C'est qu'un entraîneur gagne pas sa place, mec. Mais vous rêvez, c'est jamais par hasard qu'un mec joue pas, vous allez pas défendre.
Tu mets pas de but. Il joue pas. Il a marqué en prépa.
Il
a marqué
en prépa. Pourquoi il joue pas?
Ben ça c'est incompréhensible. Je comprends pas.
Parce que Rudy Garcia a un système de jeu dans lequel Mitroglou sera moins bon, puisqu'il est pas bon.
Daniel, il a une caravane au cul. C'est pas possible.
Il est pas fait pour jouer seul. Daniel, il est pas fait pour jouer seul devant. Et je vais te dire, moi là où je te rejoins quelque part, c'est qu'on en revient justement au mercato. Et là, tu peux même te replonger un an en arrière. Mitroglou, souvenez-vous dans quelles circonstances il arrive. Il arrive un 31 août. 15 millions d'euros pour la moitié des droits.
Il va traîner l'excuse combien de temps là, les gars là?
De quoi? Non mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est
là, pour moi un mec qui arrive. Il a fait la prépa ou pas?
Daniel, et
il
a Daniel été bon, tu comprends pas ce que je veux dire.
Mais écoute, il s'est préparé.
Daniel,
il est pas titulaire.
Daniel,
pourquoi c'est Germain qui est fantomatique qui joue?
Daniel, quand je te dis qu'il arrive le 31 août, je te parle pas de sa prépa. Je te parle du fait que pour moi un mec qui arrive le 31 août, alors que c'est pas le premier choix.
Mais c'est passé ça.
Mais Daniel,
cette année, je te dis.
Laisse-moi terminer. Un mec qui arrive le 31 août à l'heure à laquelle il signe, c'est pas le premier choix. Pas aux conditions auxquelles il est arrivé. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Pour moi aujourd'hui, il joue pas à l'OM
non
plus.
Un an après, il est là.
Oui.
Pourquoi il joue pas s'il est meilleur que Valère Germain?
Mais parce que je pense qu'à la base c'était pas le choix numéro 1.
Tout le monde serait meilleur que Valère Germain.
Donc c'est pas le choix numéro 1, mais entre 15 et 20 millions et il joue pas.
Il vient à 15 millions.
Et il joue pas
pour la moitié des droits.
Bah il a joué l'année dernière. Il a fait quelques matchs, non?
Il a marqué sa douzaine de buts.
Il est satisfaisant.
Non. Je te dis pas qu'il est satisfaisant.
Mais non, t'as jamais dit ça.
Je te dis pour moi l'aberration c'est qu'il joue pas et qu'en plus ils aient cherché un joueur qui est bon dans un système particulier, le met jamais.
Ça veut dire qu'il gagne pas sa place quand il joue. Tu vois bien que le mec il se traîne sur le terrain. On dirait qu'il est perdu.
Il était en vacances, mais il était bon en prépa.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des matchs de prépa? Tu joues contre
l'équipe
de
Grenoble. Mais au moins,
tu joues contre des équipes de quartier.
Il y a trois matchs, il en a pas débuté.
Mais ils ont joué. Mais les matchs de prépa.
Non, mais là, les trois matchs de Ligue 1, pourquoi il en débute pas un? Je comprends, je trouve ça bizarre.
Tu veux le numéro de Rudy Garcia? Pourquoi tu me dis ça à moi?
Je trouve ça bizarre. Je te partage juste mon étonnement.
C'est son avis, t'es pas d'accord, on échange.
Tu devrais plutôt te demander pourquoi Casper le fantôme joue à sa place.
C'est gentil quand tu dis Casper le fantôme encore, hein. Le mec, il fait 1m80, il prend pas un ballon de la tête.
On doit y aller. Tiens, sachez qu'on parle de Moussa Dembélé en attaque, le joueur du Celtic. Il n'y a pas eu d'offre encore. Le Celtic en voudrait une vingtaine.
On en parle, mais il n'y a pas eu d'offre. Ça veut dire quoi? On en parle. C'est qui est-ce qu'on parle?
Il y a un intérêt des dirigeants de l'Olympique de Marseille, mais il n'y a pas eu d'offre encore.
Ouais, s'ils ont envie, ils peuvent s'intéresser à Cavani.
Toi, t'es relou, là, ça y est, t'as
relou. Non, mais je veux dire, imagine Héro et Garcia, ils sont ensemble, ça nous intéresse.
Ils se sont renseignés.
Ça veut dire quoi, ça intéresse?
Sur Ousmane Dembélé. Ils se sont renseignés, tu vois, ils se disent, tiens, éventuellement.
Pas sur Ousmane, sur Moussa.
Sur un malentendu. J'ai dit quoi?
Ousmane.
Ouais, c'est Moussa, pas Ousmane.
Ça. Et puis sur le jeune de la Juve aussi, là. Qui...
Bah, s'ils veulent, ils peuvent être intéressés par Messi aussi.
Ouais, ou par Ousmane.
Ouais, mais ça veut dire quoi, être intéressé? On s'en fout.
On vous attend au 32-16. Ah non, mais ils se renseignent, putain. Ah non, mais s'ils se renseignent, c'est qu'ils sont intéressés. Donc, ils cherchent un attaquant, quelque part.
Jonathan, demain, il y a une fille magnifique.
J'en étais sûr.
Ça veut pas dire qu'il y aura un contrat.
Mais tout de suite, pour la suite de l'after avec Jonathan Macardi et Daniel Riolo. Ils sont complètement tarés, les gars. À tout de suite.
RMC, le football show, l'after foot.